Je vous invite à aller dans Apocalypse chapitre 10 et pendant que vous y tournez, je vous rappelle aussi que les émissions de radio de l'Église, Deux gars, une Bible, continuent, vous savez, depuis des semaines. Ils ont été enregistrés d'avance avec différents pasteurs de l'Église et pasteurs de la Rive-Sud également. Et aujourd'hui, commençait une série de 4 semaines avec Jocelyn et aussi une invitée spéciale pour la fête des mères. Mais je peux pas vous le dire c'est qui. Et donc, pour la première fois de Gone Bible, c'est une femme qui va être avec moi et qui va partager un mot d'encouragement pour les femmes lors de la fête des mères. Et dans les semaines avant et après, je suis avec Jocelyn en train de regarder deux paraboles qu'on épluche et qu'on regarde ensemble, qui nous pointent vers le Seigneur Jésus. Donc, je vous encourage toujours à partager ça en se rappelant que le mardi soir, à 9h, c'est l'émission. Mais tout de suite après, il y a l'heure gospel. Donc, 1 heure de musique chrétienne en anglais et en français jusqu'à 10h. Et c'est notre ami Harry qui fait la sélection des chants. Et donc, si vous avez des idées, là, des bons chants que vous avez entendus, qui vous disent, hey, ça serait beau à la radio, n'hésitez pas à envoyer les suggestions. Si vous les envoyez, je vais les envoyer à Harry. Sinon, le courriel de Harry directement. Et on apprécie toujours les bonnes chansons chrétiennes qui viennent de sortir, d'être à la page et d'offrir au public québécois de la musique gospel de qualité qui pointe vers Jésus-Christ. Parce que la musique gospel, c'est quoi? C'est une musique évangélique, hein? Qui communique le message de l'Évangile, l'espoir. On est dans le chapitre 10 d'Apocalypse et donc je continue là où j'ai laissé lors de la dernière prédication. C'était en fin janvier et on était dans le chapitre 8 et 9 où on a vu les jugements. Alors, je vais vous remettre en selle un peu ce matin là où ce qu'on était et on va regarder ce que le chapitre 10 aujourd'hui. Et avant de commencer, bien, et de prier, je vous rappelle une histoire qui un peu nous montre l'importance, à mon sens, des questions essentielles qu'on touche dans le livre de l'Apocalypse. Il y a de cela plusieurs années, en fait, il y a de cela 70 ans passés, le révérend Billy Graham, dont vous connaissez le grand évangéliste, était en 1955 en train de faire une croisade d'évangélisation au grand stade de Wembley à Londres, en Angleterre. Et lorsqu'il est venu, il a reçu une invitation particulière, invité au 10 Downing Street. Vous connaissez le 10 Downing Street? C'est la maison du premier ministre d'Angleterre. À l'époque, Monsieur Winston Churchill, non le moindre, dans sa dernière année, en 1955, un homme qui l'invite et qui trouve cet homme avec son traditionnel cigare, un homme fragilisé, un homme âgé, qui va mourir que quelques années plus tard, qui a donné un loyal service à l'Angleterre pendant des années. Un homme qui a eu une grande influence dans la période de la guerre. Et il l'invite pour lui parler et lui communiquer une pensée qu'il a. J'ai beaucoup entendu parler de vos croisades, il dit, et de votre venue ici. Et j'aimerais vous poser une question, Monsieur Graham. Savez-vous dans quel état de détresse se trouve le monde? Personnellement, je ne pense pas que le monde ait encore beaucoup de temps à vivre. Et il fait une pause pour hésiter. Pouvez-vous me donner de l'espoir à un vieil homme? Cet homme âgé était toujours encore en quête d'espoir et de sens à la souffrance. De sens et d'espoir lorsque c'est difficile. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'espoir, qu'est-ce que les gens font? Ils veulent mourir. Mais s'il y a un espoir, on peut continuer. Et cet homme avançant en âge d'une grande expérience, intelligent, un grand homme d'État, se posait cette question dont la majorité des gens autour de nous se posent comme question. Devant la guerre, devant les difficultés, devant les pandémies, devant les pertes d'emploi, devant les coupes brisées, les foyers brisés, le sens à toutes ces souffrances. Il semblait à Billy Graham que Churchill cherchait l'espoir non seulement pour un monde troublé, mais aussi sur une base très personnelle pour lui-même. Il a donc sorti son Nouveau Testament de poche. Ne jamais partir de la maison sans votre Nouveau Testament de poche. L'avoir toujours dans la voiture près, avec un petit tract pour parler de l'Évangile. Et c'est ce que Billy Graham a fait toute sa vie. Et lui a remis ce petit Nouveau Testament qu'il avait toujours sur lui. Pour lui montrer au premier ministre, la Bible offre non seulement l'espoir pour le monde de l'ultime triomphe de Jésus-Christ, mais aussi un espoir pour l'être humain individuellement dans le plan de salut, dans le plan de délivrance que Jésus offre à chacun. On ne sait pas le reste de l'histoire si Churchill, dans les dernières années, a consacré sa vie à Jésus-Christ. On n'en a pas entendu plus, ni M. Graham. Mais c'est une question dont Billy Graham a répondu à M. Churchill par les Saintes Écritures comme réponse à ces questions-là. C'est les Saintes Écritures qui donnent une réponse à pourquoi ce monde est en train de se polluer à mourir. Pourquoi ce monde continue, avec les leçons qu'on a apprises sur la guerre, à ne pas faire la paix et continuer à faire la guerre. Que le monde continue à tourner en rond dans les mêmes erreurs, dans de l'autodestruction, dans la perte de ses valeurs morales, de ses repères, et recommence toujours la boucle, comme si elle apprenait jamais de ses leçons. Désespéré. La Bible est là où se trouvent les réponses. Avec l'état de détresse dans lequel se trouve ce monde, la race humaine se pose des questions et a besoin d'espoir. Et toutes ces questions qu'on se pose, bien, ils trouvent des réponses dans le milieu de ce livre de l'Apocalypse dans lequel on entre. On vient de voir des jugements au chapitre 8 et 9, ceux qui ont suivi la série, des jugements troublants où des pourcentages de gens sur Terre vont mourir, où des besoins essentiels comme l'eau vont périr, pas tous, mais une partie, et amener une grande détresse sur Terre. Et on voit dans le chapitre 9 que malgré cette grande détresse, les gens vont se tourner de bord et continuer de maudire Dieu et de vouloir même mourir plutôt que de se repentir. Troublant chapitre de voir la détresse humaine et l'entêtement humain d'oser refuser son Créateur et d'oser refuser son Rédempteur, c'est-à-dire celui qui peut les racheter de leur misère, qui peut les sauver, leur pardonner des péchés et donner un sens à leur vie. C'est la folie. Et là, tout à coup, on entre dans le chapitre 10, 11, 12, 13, 14, une longue parenthèse, une scène céleste qui nous aide à saisir pourquoi cette folie, un sens à tout cela. Qu'est-ce qui se passe au ciel alors qu'il y a cette grande détresse sur terre qui nous montre des outils, des vérités essentielles pour passer à travers la détresse. Le livre de l'Apocalypse équipe à la souffrance. Il équipe au moment difficile de l'être humain à avoir un sens, une vision céleste des choses, de l'agenda de Dieu et des vérités essentielles dans nos vies pour passer à travers les moments difficiles. Et on va toucher une de ces vérités essentielles en particulier, je dirais même deux, mais une en particulier sur laquelle on va cogner le clou ce matin en regardant le chapitre 10 d'Apocalypse, et je commence tout simplement en vous lisant quelques versets. Chapitre 10, verset 1. Et voici un autre ange puissant, parce qu'il y avait plusieurs anges qu'on a vus au chapitre précédent, et là, il y en a un autre qui se démarque des autres, mais celui-ci est puissant, fort, qui descend du ciel. Il était vêtu d'une nuée. Une gloire nimbait son front. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre et cria une voix forte, une grande voix, une méga voix comme le rugissement d'un lion. Quand il eut crié, les sept tonnerres firent retentir leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent retenti, comme j'allais écrire, j'entendis une voix du ciel me disant, « Garde-toi, garde secret ce message des sept tonnerres et ne l'écris pas. » Ça nous crée déjà de l'intrigue. Allez, il a entendu dans ces sept tonnerres-là la voix de Dieu en réalité. Il a entendu une vérité, il a entendu des informations. Et pourtant, Dieu, un peu comme l'apôtre Paul, lorsqu'il se retrouve au paradis, au troisième ciel, et qu'il dit des choses que je ne peux pas partager. Et Jean voit des choses, entend des choses, et ici, il ne peut pas partager ceci, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir partager. Chose que Dieu seul sait ce qu'on a besoin de savoir et ce qui n'est pas nécessaire pour nous de savoir. Et l'ange que j'avais vu, debout, sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit, par le vivant, pour les siècles des siècles. Et là, quand on parle qu'il a juré par celui qui est vivant pour le siècle des siècles, c'est un titre qu'on retrouve dans l'Apocalypse, autant attribué à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, qu'il est attribué au Père Céleste sur le trône, le Créateur. Les deux portent ce titre-là parce que le Père et le Fils sont tous deux la personne de Dieu lui-même. Donc, par celui qui est vivant, il jure. Par celui qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre, ce qui s'y trouve, la mer, ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. c'est fini. Il n'y a plus de temps encore qui va s'écouler, ça s'en vient. Mais au jour où l'on entendra le septième ange, quand commencera de sonner sa trompette, alors sera l'accomplissement du mystère de Dieu. Comme il en fit l'annonce ou comme il en fit la bonne nouvelle, ça dépend de vos traductions, mais la bonne traduction devrait dire comme il en fit la bonne nouvelle, c'est l'évangile ici, c'est Evangelios qui se retrouve là, à ses serviteurs, les prophètes de l'Ancien Testament. Ce mystère dont on sait trouve son accomplissement dans la venue du Messie sur terre et dans son retour. On va arrêter ici, mais on va prier le Seigneur. Père Céleste, ce qu'on vient de lire, Seigneur, c'est ta parole et on te prie de nous éclairer, de nous montrer en 2022, alors que s'approche ton retour, Seigneur, et nous le croyons et nous le déclarons ici, Seigneur, et nous rassurons nos cœurs devant la détresse que tu reviens bientôt. Seigneur, parle-nous ce matin par ce texte des Écritures que tu as donné à Jean il y a près de 2000 ans, que tu lui as révélé pour notre bien encore en 2022. Apprends-nous, Seigneur, des vérités de cette vision de ce grand ange puissant qui fait cette déclaration. Apprends-nous, Seigneur, avec ce que Jean va vivre dans les prochains versets, ce que tu veux qu'on apprenne et qu'on a de besoin pour passer et être équipé à travers les moments difficiles. Donne-nous cette perspective du ciel qui nous permet de ne pas s'attacher au terrestre, mais de continuer lorsque c'est difficile. Nous en avons besoin, Seigneur. Autour de nous, les gens ont besoin de voir des croyants qui n'ont pas toutes les réponses, mais qui ont ce qui est essentiel. Les réponses sur d'où on vient, qui nous sommes à travers toi, et nous, où nous allons. Seigneur, les gens ont besoin de voir des croyants qui se tiennent fermes sur la parole de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, nous te le demandons. Rencontre nos besoins comme seul notre Créateur peut nous parler en toute intimité, pour nos besoins privés, personnels. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien, avant d'exposer un peu plus le texte, je vous remets en contexte pour qu'on puisse comprendre ici. On vient de passer justement cette scène des trompettes, et les trompettes 1 à 6. Et là, on arrive à cette septième trompette et il y a comme un suspense, il y a une scène céleste avant que se fasse le résonnement de cette septième trompette à la fin du chapitre 11. Il y a cette scène céleste qui est importante de saisir. Je vous rappelle ici qu'on est dans l'Apocalypse et dans les chapitres 4 jusqu'au chapitre 19, au retour de Christ, il y a cette séquence de sauts. Donc, des sauts sur un parchemin qui sont cassés. À chaque fois qu'il y a un saut de cassé, il y a un jugement qui arrive. Et on l'a vu dans le chapitre 6. Et on l'a vu une scène céleste au chapitre 7 des 144 000 qui nous donne l'espoir qu'à travers ce moment de détresse, il va y avoir un grand nombre phénoménal de conversion, de gens qui vont se tourner vers Christ pour croire. Un temps de réveil et ce qui est sur le cœur du Seigneur au chapitre 7. Et là, continue à la septième saut. Commence une série de sept trompettes. Donc, le septième saut se trouve à inclure les trompettes et les coupes comme jugement. Et donc, s'enchaîne au chapitre 8, ces trompettes. Il y a une suite. On peut pas couper la chronologie et dire ça dure chacun 2-3 mois. On sait pas exactement le nombre de temps, mais on voit un avancement dans cette période de 7 ans de tribulation future qui s'en vient avant le retour du Seigneur. Et donc, on a cette séquence, et là, on se trouve ici à la fin des trompettes, à cette septième trompette qui va inaugurer les sept coupes de jugement qui vont terminer les jugements, l'intensification dans la deuxième partie de la tribulation. Et donc, je vous rappelle ici ces terribles jugements qu'on a vus au chapitre 8 et 9. Si vous voulez le regarder, on en a parlé à la fin du mois de janvier, une prédication à ce sujet-là. Et la septième se trouve au chapitre 11, où il va s'ouvrir cette septième trompette qui va inaugurer les jugements des couples. Et encore là, avant de le voir, le jugement au chapitre 15, 16, il va y avoir une scène céleste, chapitre 12, 13, 14, qui sont essentielles pour faire du sens au milieu de cette tribulation-là, de ces jugements-là, de ce que Dieu a en tête, ce qui est sur son cœur, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Et vous savez, souvent, on peut voir une scène, on peut voir une pièce de théâtre, mais c'est pas la même chose si vous mettez sur le côté et que vous voyez en coulisses ce qui se passe. Tout à coup, ça change la perspective de juste être devant et de voir circuler le mouvement, mais de pas voir l'intrigue d'être sur le côté et de voir le mouvement derrière la scène, en dessous de la scène, en haut de la scène. Et quand il nous amène dans l'Apocalypse, chapitre 10, 11, 12, 13, 14, Dieu nous donne un regard derrière la scène, sous la scène, en haut de la scène, une scène céleste pour nous aider à avoir du sens à ce qui se passe dans ces jugements-là et nous montrer aussi sa préoccupation pour les âmes. Comment il place les choses et que tout ce qui est en train d'avancer vers la fin, mais que Dieu fait tout d'une manière très attentionnée. Vraiment essentiel. Gardez cette idée de la scène pour vous aider à apprécier. Et donc, on est ici, en plein milieu, ici, cette scène céleste qui dure, chapitre 10 au chapitre 14, au milieu de cette tribulation. Je suis pas en train de dire que c'était en plein timing là. C'est une scène céleste, à peu près dans ce milieu-là, qui nous aide à comprendre le mouvement des jugements et ce qui se passe sur terre. Et à mesure qu'on va avancer les chapitres 10 à 14, on va comprendre un peu plus les intrigues de ce qui se passe sur terre et le jeu derrière la scène, justement. Donc, toujours des jugements, puis un interlude, des jugements interludes, et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent pour donner du sens. Et après quoi, à chapitre 15, 16, va venir la précipitation de la destruction de Babylone, on va en reparler, et du retour triomphal du Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette partie du centre, voilà un tableau que je vais vous ramener à chaque prédication pour vous aider à vous situer. Donc, il y a une parenthèse ici, un prélude à la septième trompette qui se passe au chapitre 10 et 11, qu'on va regarder dans un mois, le chapitre 11. Donc, au cours des deux prochains mois, je reviens, puisque je travaille à 25% pendant une période de 6 mois, je reviens mais je travaille davantage d'ici la fin scolaire pendant les deux prochains mois et je vais apporter la parole à quelques reprises pour s'attaquer à ces chapitres-là, justement. Donc, je regarde pas plus que ça, puisque vous avez ici déjà cette vision de l'ange puissant et du petit livre qu'on va regarder ce matin. Manger et digérer la parole de Dieu. C'est le titre et l'orientation de la prédication de ce matin. Et ce qu'on vient de voir, c'est cette scène d'un ange puissant qui annonce l'imminence du jugement, qui prépare. Et cette scène, si vous prenez le temps de la lire attentivement, est une scène impressionnante. Et c'est pas pour rien que les gens qui ont écrit des livres sur le sujet se disent, on a l'impression que cet ange haute, fort, semble presque une présentation de Christ. Tellement que la description de sa puissance, des pieds sur la mer, sur la terre, qui montre que le Seigneur qui revient prendre possession, non seulement de toute la terre, mais là, les deux pieds sur terre, de ce qui se passe dans ce chaos. Et cet ange-là puissant donne l'impression que c'est l'ange de l'Éternel, donne l'impression que c'est peut-être même Jésus-Christ lui-même, tellement il y a des similarités avec des visions, dont le chapitre 1, de Christ. Et certains vont dire, non, c'est pas lui pour d'autres raisons. Et je me donne même pas la nécessité de partisaner d'un bord comme de l'autre. Les deux sont possibles et il y a des évangéliques des deux côtés d'interpréter cette vérité-là, mais ça ne change à rien à l'autorité qui est exprimé là, et le fait que ça annonce par la voix du tonnerre le jugement qui s'en vient, parce qu'évidemment le tonnerre c'est une image importante du jugement de Dieu. Regardez ces passages intéressants et en même temps instructifs de l'Ancien Testament. Dans Amos, les prophètes, on va dire ceci, il dit « De Sion rugit de Jérusalem, excusez-moi, l'Éternel de Sion, rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix. » Donc comme un rugissement de lion, qui vient et qui annonce qu'il s'en vient dévorer. Une annonce de jugement. Le lion rugit, on dit au chapitre 3 encore, qui ne serait pas effrayé, tu serais bien fou de prendre ça à la légère. Quand l'Éternel rugit comme un lion et annonce du jugement qui s'en vient, on peut pas prendre ça à la légère. Il doit y avoir une grande crainte, un tremblement, un grand respect et une grande écoute. OK, qu'est-ce qui s'en vient? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui pourra? Ne pourra pas prophétiser, donc annoncer ce qu'il dit. Joël aussi, le prophète, dit de Sion, l'Éternel rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix, le ciel et la terre sont ébranlés, mais un mais, écoutez bien là, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Et t'as envie de dire, quand tu es devant le rugissement de l'Éternel, ce que tu veux t'assurer, t'es dans le bon camp, t'es du bon côté du rugissement. De ceux qui sont avec le lion qui rugit et qui annonce le jugement. Et là, tu peux trouver le refuge, tu peux trouver un abri, une protection. Mais pour celui ou celle qui n'a pas trouvé en Jésus-Christ seul sa protection, il doit y avoir de la crainte. Il doit y avoir un tremblement profond, une angoisse profonde qui veut pousser l'être humain à se tourner vers son Créateur. Et l'Ancien Testament, donc, utilise cette image un peu comme celle qu'on retrouve ici, très comparable chez les prophètes. Et même Samuel va parler de l'Éternel qui a parlé comme un tonnerre lorsqu'il y a eu un fameux combat où Saül avait été impatient. Et le tonnerre est une image courante pour parler de l'Éternel qui parle. Et donc, les images ici, c'est pas des énigmes, ils sont assez clairs quand on regarde les prophètes de l'Ancien Testament et qu'on a lu l'Ancien Testament pour voir le sens ici des paroles qu'on retrouve dans ces quelques versets. Mais le thème ne se trouve pas là dans ce chapitre. Le thème se trouve au verset 2, lorsqu'il parle d'un petit livre qui est dans sa main. Un petit livre ouvert, si vous regardez au verset 2, et qui va revenir dans la conversation au verset 8 à 11 qu'on va lire dans quelques instants. Ce petit livre ouvert n'est pas le même livre qui était écrit en dedans et en dehors au chapitre 5. Il est déjà ouvert, ce livre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais certainement, il annonce les choses qui s'en viennent. Et ce petit livre ouvert est central à cette annonce. Et aussi, le fait qu'on parle de l'annonce de la bonne nouvelle faite par ses prophètes. L'Ancien Testament nous annonce une bonne nouvelle qui se trouve qu'il y a un pardon dans le Messie. En l'Éternel seul se trouve un rédempteur, et dont tout le sens va devenir clair lorsque Jésus va venir. Et il parle de l'importance de prophétiser, qu'il parle ici au verset 7 et qui en reparle au chapitre, les versets 8 à 11 pour Jérémie. Et d'où le titre de manger et de prophétiser, de prendre et manger. Donc c'est le thème central de ces quelques versets. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui est important, c'est de retenir ici cette scène céleste d'autorité qui annonce la puissance de Dieu qui va revenir posséder la terre sur terre même. Alors qu'il y a eu un prince de ce monde laissé dans le rejet de l'être humain de son créateur à être prince sur terre, à influencer, à penser qu'il va instaurer un royaume permanent et contrer les plans de Dieu, les deux pieds de cet ange annoncent le Seigneur qui revient prendre possession de tout. Et il le jure par lui-même. Ça, évidemment, des fois, ça accroche. Mais là, pourquoi il jure par lui-même? C'est bien drôle. Il jure par lui-même, en fait. Il jure par l'Éternel. Il jure par celui qui est vivant. Nous, on dit tout le temps, ben, il faut avoir une parole. Pas besoin de jurer. Hein? Mon fils, parfois, quand il vit des moments intenses, Mathias, vous savez, comment il nous amène toutes sortes d'anecdotes intéressantes dans la famille, mais des fois, quand il est en crise et qu'il il veut dire quelque chose, il a appris des fois des amis à l'école qui disent, je te jure. Et là, quand il est en crise, je te jure, papa. Puis là, je dis, mon homme, t'as oublié, t'es un lapierre. Nous, on n'a pas besoin de jurer. On n'a pas besoin de jurer. T'as une parole ou t'en as pas. Puis quand t'es rendu au point qu'il faut que tu dises à quelqu'un, je te jure, c'est parce que t'as pas de parole. Parce que sinon, t'as pas besoin de dire, je te jure. Papa, il dit des fois, je te jure. Non. Quand il réfléchit, mais parce que j'ai pas de besoin. Si je te dis quelque chose, je vais le faire. Je suis un humain, je peux faire une erreur, mais. J'ai une parole. Alors pourquoi l'Éternel jure l'ange jure par l'Éternel? Aussi, c'est Jésus-Christ qui jure par lui-même. Et vous pouvez retrouver un exemple de cela dans Hébreux, chapitre 6 et le verset 13, où ce qu'on voit l'Éternel qui a fait une alliance dans l'Ancien Testament à Abraham. Et on dit qu'il a juré par son propre nom. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. C'était pas pour se garantir à lui, c'était pour donner l'assurance aux êtres humains. Et il est en train de dire par cette expression-là de jurer, c'est une garantie, il ne reviendra pas. Et il le montre devant l'être humain qui lui a pas de parole, il garantit par le Créateur lui-même que ça va se passer. C'est une assurance. Et si vous voulez avoir un verset comparable, vous pouvez aller voir justement ce texte qui nous donne une illustration de cette expression de jurer. Et on nous dit ici que le temps... Et le mot qui est là pour le mot « temps », il dit « le temps est court ». C'est le mot « chronos », c'est le mot qu'on utilise pour le temps. Il est en train de dire « on arrive, là, on achève, là, puis là, lorsque la trompette va arriver, là, c'est ça déboule. » Et là, ça finit avec le retour, à la toute fin des coupes, le retour de Christ au chapitre 19. On est là dans le temps, le vrai temps. Et c'est pour ça que l'Apocalypse n'utilise pas le temps de manière... C'est l'époque, non. Le mot utilisé régulièrement, c'est le mot chronos, donc le mot pour chronologie, le mot pour avancer dans le temps, le mot comme on regarde l'horloge et le temps avance, le chronos. Et ça s'en vient. Et il lui dit, c'est garanti. Mais là ici, ce qui est intéressant, c'est les versets qui suivent, sur lesquels on va terminer ce matin et s'attarder un peu plus. Regardez avec moi les versets 8. Après avoir vu cette scène rassurante, ce tonnerre et entendu les paroles de Dieu, mais qui ne peut pas nous révéler et qui, comme Paul, doit se garder une petite gêne et révéler jusqu'à ce que Dieu lui dit de révéler. La parole de Dieu a été déclarée. La prise de possession de la terre par cette image, il dit, ça va se faire, c'est garanti, on est en train d'achever, ça s'en vient et celui qui l'annonce a une grande autorité, une méga autorité, cet ange autre qui est là. Qu'est-ce qu'il demande maintenant devant cette scène? à son prophète Jean. Regardez bien, c'est particulier comme scène. Et la voix que j'avais entendue, donc au verset 1, verset 4, cette voix qui avait donné des consignes, venant du ciel, me parla de nouveau, encore une fois. Va, prends le livre. Et déjà, notre attention devait se tourner, il y a un impératif. Il y a un commandement qui est donné ici. Et tu trouves, oh, il y a un impératif, OK? Il y a un ordre. Va, prends le livre ouvert dans la main de cet ange puissant qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avança vers l'ange et je prie de me donner le petit livre. Ça demande déjà beaucoup de courage de faire ça devant un tel ange. Il me dit, prends et mange. Ah, peut-être, en fait, tu t'es peut-être trompé, tu veux dire, prends et prêche, c'est ça que tu veux dire. Et c'est là qu'il a repris, il dit, non, j'ai dit, prends et mange. Ah, OK. Mange. Pourquoi manger, c'est particulier. On continue. Il dit, prends et mange. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura le douceur du miel. Particulier, hein? Initialement, le doux comme le miel. Et la parole de Dieu utilise une image comme ça dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, par exemple, psaume 119, où qu'on parle ici que ta parole sont douces pour mon palais, elles sont douces plus que le miel à ma bouche, dans le psaume 119, verset 103. Et à d'autres endroits aussi, on retrouve cette image, psaume 19. Mais une fois rendu dans les intestins, vous savez de quoi je parle, hein? La fameuse pizza trop tard, les chips trop tard le samedi soir, puis parce qu'on s'est laissé aller, on s'est pas contrôlé à finir. Mais là, il dit, quand il va revenir, il va avoir cet aspect-là, là, amer, dans les entrailles. C'est quoi cette affaire-là? Et donc, comme il l'a dit, je prie. Donc, il dit, prends, il prend, il mange, je prie le petit livre de la main de l'ange et je le mangea. Et dans ma bouche, il avait la douceur du miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles devinrent amères. Mais là, on s'entend ici, là, c'est pas parce que vous mangez du papier que vous allez avoir des problèmes de digestion, là. Si c'est écrit sur une feuille, c'est pas ça l'enjeu. Il y a plus profond que ça dans l'image ici. C'est pas juste l'ingestion de papier, parce que vous pouvez manger du papier. En passant, vous pouvez manger des feuilles de papier, puis si vous les mangez comme il faut, vous n'aurez pas d'indigestion techniquement. Je veux pas ajouter plus de commentaires sur cette question-là. OK? Mais on se comprend, c'est pas de manger du papier comme tel, on parle ici de l'ingestion de la parole de Dieu. Il y a une image ici qui veut nous faire réfléchir, et donc il est en train de dire, il y a un effet ici doux au début de cette annonce de la parole de Dieu, mais il y a quelque chose de dérangeant profondément. Et l'on me dit, là ici il y a plus qu'une voix, l'on me dit, plus, il te faut de nouveau prophétiser sur les peuples, les nations, les langues et les rois. En grand nombre. Et encore une fois revient cette thématique de l'Apocalypse qui nous dit que le message qui est donné ici se veut pas un message pour les Juifs. Ce message qui est donné ici se veut pas non plus juste pour les gens dans l'Église comme tel. Il se veut pour les gens de tous horizons, pour toutes les nations. Le message ici se veut pour toutes les langues, toutes les coutumes, toutes les couleurs de peau, tous les continents. La préoccupation de l'Apocalypse et son message est pour le monde entier. Croyant et incroyant, où Dieu responsabilise l'être humain, l'instruit, lui dit ce qui s'en vient et l'équipe s'il veut rebrousser chemin ou l'instruit s'il veut s'entêter sur la fin et que la fin ne changera pas. Donc, quelle est ma réponse à ce message? Celui d'entêtement, comme le chapitre 9, préférant même mourir que de se repentir. Ou tout à coup, il y a de la crainte, du tremblement. Ou, comme le disait tantôt Joël, chapitre 3, verset 16, on se tourne vers l'Éternel et on trouve en lui un refuge. On trouve en lui un abri. Amen. Dans notre détresse, quand j'ai besoin de lui. N'est-ce pas? Maintenant, donc, une image. Un ange puissant, et là maintenant, Jean doit de nouveau prophétiser. C'est assez particulier ces quelques versets que je vous ai lus ici, sur « Il prit le petit livre et qu'il ingurgite ». Évidemment, ici, on comprend qu'il y a un sens beaucoup plus profond que du papier et un parchemin qu'il a avalé, évidemment. Qu'il contienne ou non tout le reste du livre de l'Apocalypse, on ne sait pas exactement le contenu, mais on comprend qu'il contient au moins une partie de ce qui s'en vient et qui annonce les jugements sur la terre qui, oui, peuvent laisser un goût amer. Le point de cet intermède au cours duquel Jean a reçu l'ordre d'assimiler ses prophéties avant ayant été écrit, est nécessaire pour le prophète de Dieu de laisser la parole de Dieu affecter personnellement sa vie, son service envers les autres. Cette action est également une image très vivante du principe selon lequel que le fait de la révélation de Dieu puisse être agréable au goût initialement, la contemplation et la digestion de la vérité peut apporter également une lourdeur. Et je répète ça. La révélation peut être agréable au goût et dans la contemplation, mais en même temps, la digestion de la vérité peut être aussi apporter des lourdeurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce principe devrait surtout être appliqué dans notre étude de la prophétie. Et là, ici, je cite un écrivain d'il y a 60 ans, M. J.B. Smith, Joseph B. Smith, pas Joseph Smith, celui qui a une mauvaise, qui est à la tête des Mormons, là, mais un autre Joseph Smith, OK? Trop souvent, quand on entre dans une compréhension des choses à venir, il ne dépasse jamais la phase de dégustation. Ça reste à la superficielle. Mais quand on digère toute la vérité du jugement à venir, cela ne peut qu'alourdir le cœur de l'enfant de Dieu, voyant les souffrances et le jugement qui s'en vient. Tandis que Jean était sans aucun doute ravi du fait qu'une nouvelle révélation du Seigneur, il était néanmoins affligé par la nature de cette révélation qui apporte cette lourdeur. Car avant la manifestation triomphale de la gloire de Christ, devaient se produire des jugements et les martyrs les plus terribles de toute l'histoire humaine. Comme il en fut pour Jean, qu'il en soit de même pour nous. Il commande donc de prendre ce message qui va sur les nations, sur les peuples, et de prophétiser, d'annoncer. Et donc ici, il y a l'idée que si je digère la parole de Dieu, je ne peux pas la garder pour moi. Elle doit sortir. C'est pas normal, la parole de Dieu qui entre en moi et qui ne sort pas. Et il y a un sens dans lequel cette révélation qui sort, lorsqu'elle rentre dans ma vie personnellement, le changement qu'elle apporte, la confrontation avec mon péché, cette lutte avec la nature pécheresse, amène tout un défi. Tout un défi. Et non seulement à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, lorsque la parole de Dieu me saisit et que je la partage avec d'autres, la réaction de l'autre côté n'est pas toujours agréable. Si vous avez moindrement été touché par la douceur de la parole de Dieu et son goût incroyable, vous savez qu'en le partageant, pas tout le monde a partagé le même sentiment d'appréciation. Et il y a un sens que lorsqu'on le partage aussi, il y a parfois un goût amer de rejet, de jugement, de colère, et de frustration interne de voir la vérité être rejetée, de voir la vérité de l'être humain, son origine, être balayée, alors que c'est ce que les gens ont besoin, et pourtant, ils vont laisser de côté la seule bouée de sauvetage permanente que l'être humain a besoin. Et quelle colère ça peut causer en nous-mêmes, quelle amertume, ce rejet, cette déception. Et dans le sens autant intérieur qu'extérieur, il y a ce défi de gérer le bien-être de savoir la révélation de Dieu. Et quelle consolation, quel bien, quelle paix qu'elle apporte lorsqu'on comprend l'Évangile, que ces prophètes de l'Ancien Testament espéraient un jour comprendre tout le sens et que nous comprenons en rétrospective que c'est le Messie, tout le sens de la bonne nouvelle, qu'on était perdus et que Jésus vient pardonner nos péchés. Il vient nous offrir la bouée de sauvetage qu'on avait besoin. Quelle joie, quel épanouissement que ça apporte dans notre vie. Mais quel défi, après ça, de le vivre à l'intérieur, comme à l'extérieur, avec les autres. Mais ce message, bien, il est clair ici. Il faut de nouveau prophétiser. Tu ne peux pas juste le dire. Il faut que ça sorte, mon ami. Si tu as compris, il faut que ça soit partagé. C'est ça, prophétiser. Prêcher. Annoncer cette vision, cette prophétie de Dieu qui doit sortir vers l'extérieur. Et non seulement, certains vont dire, ouais, mais les paroles ici, Joël, t'as pas bien compris, ils sont déjà accomplis. Certains qui ont la perspective en mille, c'est-à-dire qui croient qu'on est dans le millénium présentement, ils vont dire, non, ça c'est des choses qui sont arrivées à l'époque de Domitien, c'est des choses qui sont arrivées à l'époque de l'histoire catholique, de l'Église, les schismes, les persécutions de cette époque-là, c'est déjà accompli cela ici. On est dans cette période d'attente et il n'y a pas un millénium littéral, on est dans le millénium. Et c'est ce que l'Église catholique, par exemple, enseigne. Et là, ici, il y a toutes sortes d'interprétations et j'aurais pu vous passer 45 minutes à vous raconter plein d'interprétations comme ça, aussi loufoques et poussées les uns les autres, sans fondement. À mon sens, c'est complètement aléatoire. On peut interpréter bien des affaires comme ça, dans le vide. N'ayant pas de réponse, on peut remplir les vides comme on veut. Et c'est là le danger d'aller trop loin à vouloir mettre des réponses à toutes sortes de choses quand on n'a pas la réponse. Et de comprendre les leçons bibliques ici à retenir. Et ici, remarquez bien, le message est dit, c'est pour tous les peuples. C'est pas juste pour les Romains à telle époque. C'est pour toutes les langues. C'est pas juste pour une partie de la terre. D'où il y aurait un accomplissement pour le secteur romain des années du 1000 ans, en l'an 1000, où il y aurait une période de temps fixe dans l'histoire où ce serait accompli. Bien plus que ça, ces paroles ici, lorsqu'ils disent que c'est les nations, les peuples, les langues, des rois nombreux, veut dire que c'est pas limité à un endroit, c'est pour le monde entier, cette prophétie-là et cet accomplissement-là. Et non limité à une période de l'histoire de l'Église. Et qui va aboutir ici, dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je veux qu'on s'oriente vers une conclusion. Et j'aimerais, en guise de préparer cette conclusion, de vous lire une expérience similaire qu'un des prophètes de l'Ancien Testament a vécu. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à la prendre et à trouver ce texte dans Ézéchiel chapitre 2, où on a une histoire similaire et il y a des comparables vraiment intéressantes dans notre réflexion pour atterrir cette prédication ce matin et aller vers des pistes de réflexion dans ma vie personnelle que j'aimerais qu'on réitère et qu'on prenne le temps ce matin. Ézéchiel est un des prophètes que j'apprécie tellement. C'est tellement un livre instructif, le prophète muet. Le prophète que Dieu a rendu muet. Ouais, comment ça marche, un prophète muet? Vous lirez le livre d'Ézéchiel. Ça marche assez intéressant. Bien des illustrations, bien des pièces de théâtre, alors que cet homme est muet et il doit faire de manière artistique, par une pièce de théâtre, les prophéties que l'Éternel lui donne pendant une période de temps spécifique de 7 ans et quelque chose, jusqu'au jugement de la ville de Jérusalem. Cet homme, dans la début trentaine, un jeune prophète, et voici l'expérience qu'il vit après la vision de l'Éternel au chapitre 1. J'ai regardé, j'ai vu qu'une main était tendue vers moi, elle tenait un livre, encore cette expérience d'un livre. Il le déroula devant moi, donc c'était un rouleau, évidemment, écrit des deux côtés, comme le premier aussi, parce qu'on voulait être économique, hein, avec les pages, puis tout ça, c'était compliqué à faire. Alors souvent, les rouleaux pouvaient même être remplis des deux côtés. On a trouvé des rouleaux comme ça, remplis de chaque côté, pour être efficace. Écrit des deux côtés. Il contenait des complaintes, des lamentations, des gémissements. Il m'a dit, « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va parler à la communauté. » Vous voyez, encore une fois, on mange le livre, mais il doit être partagé. Il faut le consommer, mais il doit sortir vers la communauté qu'on le dessert. « J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné le livre à manger. Il m'a dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins de ce livre, celui que je te donne. » Alors, je l'ai avalé par obéissance. Et ma bouche, dans ma bouche, il fut doux comme le miel. Intéressant. Mais là, un peu plus loin, versets 5 et 7, il est averti que le peuple ne serait pas réceptif à ce qu'il partagerait. Il dit, tu vas le faire, mais en passant, on ne t'écoutera pas.
Ben là, c'est comme, c'est pas très motivant, Seigneur, me semble.
Non, mais je te dis la vérité, il faut que je te prépare puis que je t'endurcisse. Tu vas prêcher, mais les gens ne vont pas t'écouter. Mais tu vas le faire parce que je te le demande, parce qu'on va les responsabiliser devant le message. C'est leur choix, mais toi, il faut que tu sois fidèle dans ce que je t'ai donné. Et c'est pour ça qu'il va être équipé de manière spéciale. Il dit, il va rendurcir son front. Il y a des belles vérités là, pour notre vie chrétienne dans le livre d'Ézéchiel. C'est de toute beauté. Mais il va renforcer son front pour être capable d'être tenace devant le rejet continuel du peuple de Dieu du message. Et donc, le peuple ne sera pas réceptif, il dit au verset 5 et 6 du chapitre 3. Et il dit, on lit au verset 3, excusez-moi, chapitre 3, verset 14. On lit ceci. L'Esprit m'a donc enlevé et m'a emporté. Au verset 14. Je suis parti amer et furieux. Voyez, ce sentiment revenu, après avoir eu la parole de Dieu, ce goût merveilleux, mais après ça, de voir la réaction des gens et l'effet qu'il a sur le cœur des gens, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Il m'amenait là où ce que je voulais pas. Il m'amenait vers un peuple qui allait rejeter le message. Et après ça, il y avait un sentiment qu'il devait gérer avec. De cette amertume, même mot, et ce côté colère aussi, irritation. Bien réel de voir la vérité être rejeté. S'il y a bien une chose qu'on entend dans les derniers mois, c'est chaque parti qui clame, « Ah, c'est scientifique, ça! Ça, c'est pas scientifique! Ah, telle personne, lui, est scientifique, mais ça, c'est des pas scientifiques! » Et là, on oppose les choses que si c'est scientifique, ben c'est vrai, c'est factuel, c'est incontestable. Et là, chacun se clame de vérité scientifique, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans qu'on se fait rabattre les oreilles par tout le monde là-dessus. Et là, chacun a décidé vers quel côté pencher comme étant plus scientifique que l'autre, selon les crédibilités de l'un, etc. Et là, on se dit, c'est scientifique, mais tu peux pas le rejeter. La logique de tout ça, c'est que si c'est vrai, si c'est factuel, tu serais fou de rejeter la vérité. Un fait prouvé par telle recherche. Mais ce qu'on a réalisé au cours des 2 dernières années, c'est qu'il y avait beaucoup de choses galvaudées à droite et à gauche qui étaient des interprétations de faits. Il y a des faits. Mais après ça, ce qu'on fait de l'interprétation des faits et comment on met certains faits ensemble pour en faire finalement un package deal, une interprétation, ça, c'est 2 choses bien différentes de chaque partie. En lui disant, telle recherche, telle personne, et là, ils font des amalgames. Et je veux pas embarquer dans ce débat-là, mais l'idée qui est retenue, c'est que si tu as la vérité, si tu as quelque chose qui est factuel, le rejeter, c'est de la folie. N'est-ce pas? Imaginez le prophète. Il l'a entendu de Dieu lui-même. Il a mangé la parole de Dieu. Il a goûté comment c'est bon la parole de Dieu. Et quand il sort la parole de Dieu, quelle amertume et quelle frustration de voir la non-réception et de voir les gens continuer vers le précipice, vers la douleur, vers la tristesse, vers la mort. Et on a besoin de l'aide de Dieu pour gérer cette frustration, cette amertume qui n'est pas évident. Et le prophète a dû le vivre. Je vous lis ici un petit paragraphe qui résume tout cela. Dans les 2 cas, Ézéchiel, comme pour Jean, manger est doux au début, mais il laisse éventuellement une mauvaise sensation dans les intestins car la digestion devient éventuellement difficile. Il y a certainement un élément de douceur dans la bonté de Dieu et dans la vérité, mais alors que nous l'assimilons plus profondément, une sensation amère vécue aussi, symbole du fait que la vérité des plans de Dieu est aussi douloureuse et a des dimensions désagréables pour l'être humain. Personnel, comme sur l'aspect destiné éternel. La réponse négative aussi des gens laisse leur mépris, leur rejet laisse parfois un goût amer. De plus, tant que cette révélation est dans le domaine de promesses, de l'espoir et de l'aspiration de gloire à venir, il y a un goût doux. Mais une fois que la vérité transperce à l'intérieur, dans le domaine de la conviction et du jugement, expose le péché, annonce les jugements à venir, il devient amer et désagréable, comme l'expérience, mais néanmoins nécessaire et salutaire. Maintenant, on peut mal interpréter tout cela. Et je termine ce matin avec cette histoire. Si vous cherchez moindrement, vous allez pouvoir retrouver facilement cette histoire du roi Ménélik II, roi d'Éthiopie. Il y a de cela 100 ans. Et ce roi assez excentrique est attribué d'avoir amené la modernité en Éthiopie. Que ce soit le téléphone, d'amener l'électricité, différentes choses modernes de l'époque, service télégraphe, l'éducation publique, il est accrédité pour ça. Mais il avait un attachement aux Écritures et à la foi chrétienne, mais qu'il pratiquait d'une manière assez particulière et excentrique, pour le moins. Il croyait à la pratique littérale de ce qu'on vient de lire. C'est une base régulière, lorsqu'il ne filait pas bien, il mangeait des pages de la Bible. C'est pas des blagues, là, ce que je dis là. Et certainement, certains ont déjà entendu cette histoire assez particulière. Et régulièrement, il se sentait malade, il se soignait comment? Il prenait une page de la Bible, en marchait 2, 3, 4. Puis, techniquement, la parole de Dieu, elle devait être douce pour lui. Il y avait un aspect très littéral, qu'il n'avait pas compris le sens, et qu'il pratiquait tout au long de sa vie. Et vécu assez âgé, Donc, manger des pages comme telles, c'est pas nécessairement, tu sais, problématique. Mais à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, nous ne vous recommandons pas cela. OK? C'est important, juste pour mettre en garde. Joël n'a jamais encouragé de manger des pages de votre Bible. Évidemment, l'épaisseur de votre Bible et des pages va beaucoup avoir une incidence, mais c'est un autre sujet. C'est plus facile les pages d'aujourd'hui aussi que les gros rouleaux d'antan, mais c'est encore un autre sujet. Mais ce qui est particulier ici, c'est cette idée d'ingestion littérale de la parole de Dieu qu'a fait cet homme. Et sa mort aussi témoigne du non-sens de tout ça, parce que lorsqu'il fut proche de la mort, après avoir vécu quelques infarctus, il a décidé de manger le livre, c'était le livre d'un roi au complet. On lui a dit, amenez-moi tout le livre d'un roi au complet. Il était faible. Et il a pris le livre et on dit qu'il est mort aux environs du chapitre entre où ce que Salomon et la reine de Séba. Donc, il n'a pas fait la moitié du livre. Et il est mort. Ça ne veut pas dire que ça l'a achevé comme tel, mais il n'était pas fort déjà. Alors, ça fait rire, hein? Un peu une histoire particulière de manger la parole de Dieu littéralement. Mais je vous raconte cette histoire unique et particulière pour amener un peu d'humour sur tout ce défi dans notre vie, n'est-ce pas? De prendre, de manger et de digérer la parole de Dieu pleinement dans nos vies. Pour la laisser avoir l'effet de douceur, mais aussi l'effet d'amertume qu'on doit interagir avec, qu'apporte le message de l'Évangile et de la prophétie. Oui, cette histoire peut faire sourire, et néanmoins, il y a de quoi réfléchir. Contrairement au livre manélique, à le petit livre, l'ange de Jean lui demande de prendre soit un rôle de guérison, c'est pas quelque chose non plus qui va le tuer, mais qui amène une amertume. Le symbolisme de manger la parole de Dieu est une manière d'indiquer que la vérité écrite dans le livre doit devenir personnelle, doit nous habiter. L'importance n'est pas simplement de lire et de savoir et de connaître intellectuellement ce qui est écrit sur l'avenir, d'être capable de le dire sur le bout des doigts, d'être en compétition de connaissances bibliques et de gagner les quiz bibliques, c'est pas ça l'idée. L'Évangile qui a un goût doux, comme le miel, source de vie, mais en même temps de l'assimiler, de la digérer et de la partager. Ce qui peut avoir un goût amer par un changement, par des combats internes, par la réaction des gens, n'est-ce pas? Ce qui arrive quand nous mangeons de la nourriture. On dit, il y a beaucoup de vérité dans cette vieille adage qui dit « vous êtes ce que vous mangez ». La nourriture que vous mangez devient éventuellement vous. Que mangez-vous? Que digérez-vous? Et qu'en est-il du fruit dans notre vie? Pas pour se culpabiliser, pour réfléchir, pour s'approcher de Dieu. La parole de Dieu a cet effet sur nous. Comme Jean, il est préparé à cette expérience difficile de voir ce qui s'en vient dans le livre de l'Apocalypse, afin de continuer à prophétiser et de communiquer malgré ce que ça annonce, malgré les difficultés. Un auteur a terminé ainsi, je vais terminer sur cette citation. Il y a là un principe instructif. Après avoir été entré personnellement dans l'expérience douloureuse, mais purificatrice du jugement de Dieu dans notre vie, vous êtes alors prêt à parler à quelqu'un d'autre du programme de Dieu. Jean a reçu le privilège de ce ministère et il est écrit pour nous dans Apocalypse, chapitre 11 au chapitre 14. Prions ensemble. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, des auditeurs dans notre tête, des auditeurs qui cherchent juste de l'information. Seigneur, puissions-nous mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, je ne sais pas comment tu veux parler à chacun de nos cœurs individuellement, parce que c'est toi notre papa à tous, notre papa céleste et parfait. Et Seigneur, on veut juste s'en remettre à toi ce matin, de nous parler dans le sens que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux appliquer à mon cœur ce matin? Qu'est-ce que tu aimerais me dire? Seigneur, tu ne veux pas nous mettre dans un coin puis nous chicaner. Tu veux nous relever. Tu veux nous édifier. Tu veux nous amener, si on est à terre, à se relever, à s'escouer avec ton aide, à tenir ta main puis continuer notre marche avec toi. Tu ne veux pas nous rentrer dedans et nous dire comment on est des pas bons chrétiens ce matin. Tu veux, Seigneur, nous faire voir une dimension qu'on est en train peut-être d'échapper et de ne pas vivre pleinement tout ce que tu as pour nous, alors que tu nous aimes tellement, que tu veux le mieux pour nous. Seigneur, rencontre-nous dans nos cœurs ce matin et fais-nous marcher dans la direction que tu veux. Fais-nous faire, Seigneur, le pas en avant que tu veux qu'on fasse. Fais-nous faire le pas sur place que tu veux qu'on fasse, ou peut-être même un pas en arrière que tu veux qu'on fasse. Ou de côté, Seigneur. Mais ce matin, on veut regarder vers toi. On veut te demander ton aide, Seigneur. Rencontre-nous, parle-moi, comme un père parle à son fils, pour me conduire comme le bon berger que tu es, vers les bons pâturages. Des pâturages avec une belle herbe verte pour me préparer aussi aux pâturages et aux vallées qui vont être difficiles. Seigneur, je veux te faire confiance pour l'herbe comme pour les vallées difficiles. Je veux m'en remettre ce matin et te demander de m'aider, Seigneur, à ne pas m'attacher à cette terre, mais m'attacher à toi pour garder ma mission que tu m'as donnée, la mission que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur. Et que ce qui m'a fait du bien, Seigneur, je puisse le partager. Préparé, endurci, à savoir qu'il y aura une réaction et que ça ne m'appartient pas, mais motivé en regardant vers toi et vers l'ange qui annonce, Seigneur, que tu possèdes les cieux et la terre, tu possèdes cette terre et la mer et tout ce qu'il y a dedans, et tu vas reprendre une pleine possession factuelle sur terre très bientôt, Seigneur. Et nous voulons faire partie de la partie. Nous voulons être prêts. Nous voulons pas s'attacher à cette terre, mais s'attacher à celui qui est le roi de cette terre. Et que, Seigneur, le message dont l'Église ici veut apporter à toutes les nations puisse rester dans notre focus. Ce message pour toutes les nations, Seigneur. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.